À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Philippe Descola. Je suis anthropologue, c'est-à-dire que j'ai fait de ma curiosité pour le monde un métier. Je suis devenu un badaud professionnel, si je puis dire.
Quatrième épisode, regarder autrement. Bonsoir Philippe Descola.
Bonsoir Caroline Brouet.
Hier, vous nous avez parlé de la place de ce qu'on appelle la nature et qui n'existe pas partout, à travers votre ouvrage majeur « Par-delà nature et culture ». Nous avons donc parlé d'écrits, de mots, de textes dans lesquels vous avez puisé votre recherche après votre expérience de terrain dont vous nous avez parlé mardi. Ce soir, j'aimerais que vous nous parliez de vos idées à l'épreuve d'autres matériaux que sont les images et que vous avez théorisées, là encore, dans un livre très important, important par la somme, puisqu'il fait près de 800 pages, et important par le contenu, qu'a été Les formes du visible, paru en 2021, et dont un critique du Monde fait la recension en disant « Quand un livre révolutionne l'histoire et la théorie de l'art, la géographie de notre monde et l'idée que l'on se fait des relations entre les hommes, les dieux, les animaux et les plantes, on peut le qualifier sans réserve d'événement. » Alors avant de commencer à parler des formes du visible, j'ai une petite question biographique à partir de la dédicace de ce livre à la mémoire de mes parents et de mes grands-parents qui m'ont appris à poser des questions aux images. Je me souviens que vous nous disiez dans la première émission que vous aviez grandi dans les livres, mais en fait vous avez aussi grandi dans la peinture.
Oui, j'ai grandi dans les tableaux parce que ma grand-mère, la mère de mon père, et son père étaient des peintres professionnels. Et donc, j'ai très jeune respiré l'odeur de la peinture et su ce qu'était la peinture. Il se trouve que ma mère aussi était une excellente aquarelliste, amateur bien sûr. Que enfant, je me souviens de lorsque nous voyagions en famille, c'était mon rôle d'aller chercher de l'eau pour lorsqu'elle faisait des aquarelles de paysages. Et par la suite, mes parents ont eu la bonne idée de m'inscrire au cours de l'école des arts décoratifs au Louvre, où j'allais tous les jeudis et où j'ai appris à dessiner, à peindre, voilà. Donc j'ai un goût personnel pour les images et pour l'histoire de l'art de façon plus générale, qui était un goût qui demeurait une sorte de d'amateurisme privé et que j'ai pu déployer ensuite en m'intéressant professionnellement aux images.
Oui, alors c'est intéressant que vous soyez tourné vers les images parce que on pourrait dire quand vous avez quitté les hachoirs, c'était une vraie expérience de terrain que vous avez menée. Or là, c'est pas vraiment, enfin c'est une autre expérience de terrain. C'est presque une expérience de pensée à travers les images. Mais la question qui me vient, c'est comment l'anthropologue, disons, interprète des images, ou qu'est-ce qu'interpréter les images en anthropologue?
Vous avez raison de parler d'expérience parce que ce que j'ai voulu faire, c'était de mettre à l'épreuve ces modèles dont j'ai parlé hier d'intelligibilité du monde, ces modèles de façon de faire monde. Que j'ai appelé le naturalisme, l'animisme, le totémisme et l'analogisme, en allant, comme vous le disiez il y a un instant, chercher ailleurs que dans les textes des réalisations de ces modèles dans les images. Et c'était pour moi une façon, encore une fois expérimentale, de voir si ce que j'avais proposé comme hypothèse demeurait valide dans un champ d'expression de l'inventivité humaine complètement différent de celui des textes et du champ discursif, disons. Et c'est une expérience donc que j'ai menée en commençant par une expérience dans l'expérience, c'est-à-dire que il y a quelques années j'ai été invité par le musée du Quai Branly à faire une exposition qui s'appelle La Fabrique des images.
C'était en 2010-2011.
Voilà. Et j'ai commencé par cela, c'est-à-dire j'ai voulu proposer au public des images et des interprétations d'images. Pour voir si les interprétations que j'en donnais passaient, si elles étaient comprises, acceptées, etc. Et c'était une expérience très intéressante parce que, en discutant avec les conférenciers, les conférencières qui faisaient visiter l'exposition, regardant les livres d'or, etc., et en parlant à l'occasion avec le public, j'ai fait une petite enquête ethnographique, d'une certaine façon, sur la manière dont ces images étaient reçues. Et c'est ça qui m'a lancé dans cette grande entreprise qui, en fait, après l'exposition, s'est manifestée par des cours au Collège de France pendant plusieurs années. Et le livre dont vous parlez est la synthèse de ces cours.
Alors, que disent, Philippe Descola, les images que ne disent pas les mots?
Alors, les images montrent des certaines façons d'organiser le monde. Je parle de l'ossature invisible du réel, en ce sens qu'elles montrent des choses ou omettent d'en montrer. Et c'est déjà une excellente indication de ce qui compte, de ce qui est important, des éléments qui composent un monde précisément. Et elles le montrent d'une certaine façon et pas d'une autre. Et à l'occasion de ce travail sur les images, pour donner un exemple tout simple pour vos auditeurs, je me suis aperçu que la façon classique de montrer le monde qui est caractéristique de ce que j'appelle le naturalisme et qui commence à se déployer dans les images avant de s'affirmer dans les textes, c'est-à-dire au XVe siècle, est caractérisée par ce qu'on pourrait appeler le monoperspectivisme, c'est-à-dire le point de vue d'un humain observateur qui est le peintre et qui figure pour un humain spectateur du tableau le monde à partir d'un seul point de vue, c'est-à-dire c'est une émulation de la vision humaine. Et cette façon de procéder est tout à fait originale par rapport aux autres manières de figurer que les humains ont inventées au fil des millénaires, parce que la plupart du temps elle est polyperspectiviste, c'est-à-dire que dans une image, on ne montre pas un seul point de vue, qui est celui d'observateur, mais on construit l'image de façon à y accumuler le plus grand nombre de qualités, en, par exemple, figurant l'objet ou la scène à partir de plusieurs points de vue. On a ça très classiquement dans les enluminures médiévales, par exemple, c'est-à-dire qu'on voit une scène à la fois vue en surplomb, ou bien avec un personnage vu de face, un autre personnage vu de profil, etc. Donc on adopte, pour représenter la scène, plusieurs points de vue. Une autre façon de procéder, sur laquelle on a beaucoup écrit, c'est notamment l'un des sujets d'un article célèbre de Claude Lévi-Strauss sur le dédoublement de la représentation dans les arts des Amériques. On représente un animal, ça c'est une caractéristique de la côte nord-ouest du Pacifique canadien. On représente un animal déplié le long d'une ligne imaginaire centrale. Et donc, au lieu de représenter l'animal vu de face, et c'est l'impression qu'on a dans un premier temps, en réalité, ce sont deux profils de l'animal qui sont accolés. Et on le discerne, cela, parce que l'animal a sur le front une encoche qui représente le démarrage au fond du crâne de part et d'autre de cette ligne imaginaire et de la coexistence de ces deux profils. Or, cette façon de procéder signifie quelque chose dans la façon d'organiser les images qui est tout à fait singulier, qui est tout à fait propre au naturalisme et qui est précisément la volonté de composer un monde à partir d'un point de vue subjectif, qui est celui de l'observateur, mais de le composer de façon méthodique et avec la perspective à partir de l'invention de la perspective en Italie du Nord, de façon méthodique et mathématique. Autrement dit, comme le disait très bien Panofsky dans son travail sur la perspective, c'est une objectivation du subjectif, c'est-à-dire c'est un point de vue subjectif sur le monde, mais qui est objectivé par des moyens qui rendent ce monde, au fond, objectivement évident. Mmh. Et ça, c'est une entreprise tout à fait singulière. Et ça n'est qu'en s'intéressant aux images et en comparant les images les unes avec les autres qu'on se rend compte de la singularité du naturalisme de ce point de vue-là.
Peut-être faut-il s'arrêter sur le terme même « image » avant que vous continuiez. De quelles images vous parlez quand vous parlez des images, Philippe Descola?
Je parle de toute forme de figuration iconique, soit immédiate ou indirecte, d'un élément du monde visible ou invisible. Les images servent à rendre des choses, à rendre visibles des choses qui ne le sont pas toujours, qui sont, alors par exemple, dans l'animisme, les images, ce ne sont pas des images au sens où nous les entendons comme des photographies ou des tableaux, ce sont des corps humains transformés en esprit.
Ça peut être des masques.
Ça peut être des masques, mais ça peut être même tout simplement des peintures. Ça peut même être des postures dans des danses. Je pense en particulier à ces danses qu'on trouve précisément sur la côte nord-ouest, mais aussi dans bien d'autres régions du monde, dans lesquelles des humains sont peints avec des peintures qui figurent les ornements des animaux et vont dans une petite pantomime, rendre présents ces animaux qui viennent visiter. Ces esprits animaux qui viennent visiter les humains.
Sans que ce soit de l'imitation?
Alors le terme imitation, le terme mimésis, le terme savant qu'emploient les historiens de l'art est compliqué parce que la mimésis est très ample, c'est-à-dire par exemple dans l'art contemporain, je pense à des gens comme Kandinsky ou Rothko ou d'autres. Il y a très souvent un titre, un intitulé pour un tableau. Et à ce moment-là, on peut considérer qu'il y a une intention mimétique en ce que l'imagier, je préfère employer le terme imagier qu'artiste parce que ça permet d'englober à l'intérieur d'un même terme tous les gens qui font des images, quels que soient les contextes dans lesquels ils les réalisent. L'imagier a voulu, dans le titre, dans l'œuvre d'abord, et en le rappelant dans le titre, rendre manifeste, par exemple, un état intérieur, ou bien la trace qu'a laissée en lui un spectacle. Je pense, par exemple, à cette très belle exposition qu'il y a eu récemment à Paris, de cette artiste américaine, Joan Mitchell, qui peint des tableaux qui étaient mis, c'était à la Fondation Vuitton, en regard de tableaux de Monet, et qui, au fond, était pour elle la trace qu'avait laissée en elle des paysages qu'elle avait observés. Donc c'était pas des tableaux de paysages, c'était la trace en elle, dans son imaginaire, de tableaux de paysages. Mais c'est des imitations d'une certaine façon, c'est des imitations d'un état intérieur. En ce sens donc, l'imitation c'est quelque chose de très vaste. Et on peut dire effectivement que tant un tableau de Mitchell qu'un humain qui incarne ou qui incorpore un esprit imite quelque chose.
Oui, et on pourrait aussi dire que cette idée de trace ou d'aller chercher quelque chose d'intérieur qui est plus fort que le simple décalque de ce qu'on voit, est propre à toutes les civilisations, puisque c'est quelque chose qui nous donne à voir l'intérieur au-delà de l'apparence. Le visible, c'est ce qui est possiblement vu ou à voir, hein. Donc, comme vous appelez votre livre, les formes du visible, on peut aussi s'arrêter sur le terme du visible. Mais donc, la trace, ce serait quelque chose d'assez universel, et on pourrait aussi dire que cette façon de sublimer la réalité est une des formes ou une des définitions de l'art, et que ça, on le retrouve un peu partout, sous des formes différentes. Alors, j'essaie là de vous pousser dans vos retranchements des différences et des distinctions.
Alors, je préfère parler de figuration que d'art, parce que oui, l'art est utilisé dans un contexte qui est toujours singulier et qui est lié à une certaine tradition de la figuration en Occident. La figuration, pendant très longtemps, a été une activité rituelle. Ça n'est qu'assez tardivement qu'on a fait des images pour la délectation du spectateur. Ça n'empêche pas que des images rituelles peuvent aussi être appréciées, bien sûr, par le spectateur. Mais pour l'essentiel, ce sont des agents. Et c'est un élément important, je pense, qu'il faut souligner et que j'aborde dans le livre dont vous parlez. c'est que les images sont des agents de la vie sociale. Elles ont une puissance d'agir qui s'exerce sur le spectateur, à laquelle il est difficile parfois de résister, qui provoque l'enthousiasme, l'amour, la colère.
Elles ont un effet.
Elles ont un effet.
Elles provoquent un effet.
Et donc, c'est une dimension des images qui a été, qui est devenue de plus en plus importante pour les historiens de l'art au fil des dernières décennies, en anthropologie de l'art aussi. Et ce que j'ai voulu montrer aussi dans ce livre, c'est que ces images sont des agents dont la forme, dont la puissance d'agir varie en fonction des régimes figuratifs au sein desquels elles sont inscrites.
Bon, alors là, il nous faut un
alors
exemple.
Là, je vais vous donner un exemple. Un humain qui va incorporer un esprit en régime animiste va soit par des masques qui sont quelquefois tout à fait explicites et qui vont figurer le visage, la face de cet esprit animal, dont certains sont d'ailleurs très élaborés. Je pense aux masques à transformation qui révèlent à l'intérieur, ce sont des masques à volets qui sont caractéristiques de la côte nord-ouest du Pacifique canadien, qui sont donc un masque animal qui va avec des volets qui s'ouvrent
comme des clapets
vont révéler un visage humain, lequel visage humain n'est pas un humain déguisé mais représente l'intériorité de type humain de l'esprit. Qu'est-ce que ces images figurent tout simplement? La présence d'un esprit que l'on peut appréhender soit du point de vue de son intériorité, soit du point de vue de sa subjectivité, par l'intermédiaire, encore une fois, d'un petit visage humain, ou bien tout simplement d'un comportement humain du danseur qui porte l'image d'un corps animal, parce qu'elle peut être par exemple dessinée sur son corps, et représente aussi la physicalité, l'aspect corporel de cet esprit. Et une chose qui est très importante dans l'anime, c'est la métamorphose, c'est-à-dire la capacité à percevoir un être, quel qu'il soit, soit du point de vue de son intériorité, soit du point de vue de sa dimension physique, puisque ces deux éléments sont fondamentaux dans l'animisme. Et donc on peut commuter d'un aspect à l'autre, on peut passer d'un aspect à l'autre, précisément par des dispositifs comme les masques à volets, ou tout simplement par des divisions latérales dans des masques qui représentent d'un côté une face humaine, qui est l'esprit de type humain, prêté à l'esprit que l'on fait advenir par ce masque, et de l'autre, la face animale de cet animal. Et en basculant de l'un à l'autre, au fond, on opère une métamorphose.
Celles et ceux qui ont lu Ovid pourraient retrouver des similarités,
alors,
non ?
La différence avec les métamorphoses d'Ovid, c'est que ce sont des métamorphoses définitives. Alors que les métamorphoses de l'animisme sont des métamorphoses constantes. Au fond, le problème d'un animiste, c'est qu'il sait jamais, ou elle ne sait jamais, à qui il ou elle a affaire. C'est-à-dire, un être ne correspond jamais véritablement à son apparence, derrière sa forme physique. Et d'ailleurs, très souvent, dans l'archipel animiste, le terme pour désigner le corps est le même que pour désigner les vêtements, là où on en porte. Ça veut dire que, en fait, une intériorité, une âme ou un esprit endosse un corps à volonté et peut s'en débarrasser. Et c'est cette chose que les images animistes représentent, c'est-à-dire c'est à la fois la présence d'un esprit, mais c'est en même temps la présence épisodique d'un esprit qui est capable de métamorphose. Et donc, au fond, ce qu'il s'agit de montrer, c'est qu'il y a une présence en face de soi. Cette présence, elle est en général animée par un humain, un danseur qui va porter un masque ou un costume ou des décorations. Et c'est une façon différente de rendre visible, par exemple, un prototype totémique. En Australie, dans les rituels, lorsque l'on fait intervenir des prototypes totémiques, ce sont des êtres qui n'ont pas véritablement de forme. Alors ce sont des danseurs aussi, humains, qui vont, au lieu de porter un masque qui représente un animal ou totémique ou un ancêtre, vont porter sur le corps le dessin d'un trajet qu'ils ont accompli jadis sur la Terre et qui représente au fond le moyen pour les prototypes totémiques de transmettre ce qu'ils ont laissé en héritage en matière de qualité aux humains et aux non-humains qui forment un groupe totémique. Autrement dit, c'est une trace, c'est pas une imitation au sens...
On retrouve cette idée de trace.
C'est une trace, mais c'est une trace, ça n'est pas véritablement iconique, en ce sens que ce n'est pas une imitation de l'apparence de l'être que l'on va figurer de cette façon-là, c'est une trace de son action. Et cette trace de l'action est remise en branle, si je puis dire, par le fait que les danseurs vont accomplir des pas qui sont assez simples d'ailleurs, mais vont... Vous avez la trace d'un animal. Cette trace d'un animal, c'est à la fois quelque chose d'iconique, puisque ça figure effectivement sa patte, mais en même temps, c'est la trace d'une action qui a été menée et d'une présence qui n'est pas très ancienne et qu'on peut réactiver. Et donc, vous voyez, il y a deux façons, par exemple, pour prendre ces deux exemples très simples, dans l'animisme, dans le totémisme, de donner aux images une puissance d'agir.
Donc, au fond, Philippe Descola, ce que vous nous montrez, c'est que, en fonction de nos représentations du monde, de nos conceptions du monde, je parle encore avec mes termes, vous parlez de mondiation hein, et d'ontologie, comme vous nous l'avez expliqué hier, mais en fonction de la façon dont on habite le monde, évidemment, on le représente, on le figure de différentes façons. C'est-à-dire, vous qui avez comparé notre façon à nous, naturaliste, de voir le monde et la façon dont d'autres le voient, vous voyez bien qu'on ne voit pas la même chose, d'une part, et d'autre part que derrière cette mise à plat ou la façon dont vous dépliez le monde, votre idée, c'est, vous nous dites, il faut accepter que le monde est pluriel. Voilà. Le monde n'est pas un, le monde tel que nous le voyons n'est pas universel, et ce qui est vrai dans les mots, dans notre façon d'être, se retrouve aussi dans la figuration des mots. Est-ce que je traduis
de
façon très vulgaire
votre pensée ? Non, pas du tout, vous l'avez dit parfaitement. Comment savoir quelqu'un d'éloigné de moi voit le monde ? Il peut le décrire, il peut dire des choses à propos de ce monde, et donc c'est ce que font les anthropologues lorsqu'ils enregistrent des discours à propos du monde, ou bien il peut le figurer, le monde. Et c'est ce que permettent les images, précisément. Et il le figure pas nécessairement en figurant son contenu, si, le contenu est important, mais en figurant des processus. Et c'est pourquoi je me suis intéressé au processus. Donc j'évoquais tout à l'heure le monoperspectivisme ou le polyperspectivisme, c'est-à-dire d'écrire une scène ou un être d'un seul point de vue ou de plusieurs points de vue. Je parlais tout à l'heure de la métamorphose, c'est-à-dire le fait que un être, par exemple, peut être vu soit sous un aspect, soit sous un autre, et que c'est la transmutation d'un aspect en un autre qui est importante, ou bien le fait que ce qui compte dans la figuration d'un être, ce sont les traces qu'il a laissées, parce que ces traces, on peut les réactiver, et réactiver donc sa présence. Donc c'est trois processus tout à fait différents, et nous on a inventé un processus que j'évoquais tout à l'heure au début de notre conversation, qui est la perspective. Quand je dis nous, c'est les naturalistes, hein, qui est lui aussi très intéressant, parce qu'il est fondé, encore une fois, sur la volonté d'émuler la vision humaine. Et là c'est quelque chose de très singulier, et on a tendance à juger les images d'autres civilisations à partir de cette obsession des Européens pour émuler la vision humaine. Parce que les images d'autres civilisations visent à montrer, c'est pas du tout ça, je viens de le dire. Ce sont d'autres processus, d'autres qualités du monde. Et par conséquent, le pluralisme dont vous parlez, il doit être fondé sur une perception assez claire de ce que les images souhaitent figurer, des moyens qu'elles emploient pour se faire dans tel ou tel contexte.
Oui, votre démarche, elle n'est pas d'aller voir, d'aller juger ou d'émettre des jugements de valeur. Elle n'est pas non plus de dire « non, mais tout se vaut ». Elle n'est pas dans cette catégorie de pensée-là. Quand on pourrait vous accuser, comme ça a été fait pour beaucoup d'anthropologues déjà, de relativisme, en disant, bon voilà, en fait, pour Philippe Descola, toutes les images se valent, il n'y a pas d'art, il n'y a pas... Vous ne vous placez pas là, en fait. C'est un autre registre. Vous n'êtes pas dans le jugement de valeur. Vous dites, il faut accepter que les choses soient différentes. Je ne dis pas c'est mieux ou c'est moins bien.
Et pas dans un jugement esthétique non plus, oui. Parce qu'un jugement esthétique est toujours gouverné par des critères, des références et des valeurs qui sont tout à fait singulières. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de très belles images ailleurs qu'en Europe, mais ça signifie aussi que, du fait de l'éducation de mon goût par la peinture, j'apprécie énormément certaines traditions picturales en Europe et d'autres dont je mesure bien d'ailleurs ailleurs que je les apprécie en partie parce que elles m'évoquent d'une autre façon, ou plus exactement, elles montrent d'autres manières de rendre avec beauté, il faut employer le terme, certains aspects du monde. Cela dit, le critère du goût ne doit pas être le seul que l'on emploie. Et au fond, ce que j'ai voulu faire, c'est non pas dépasser l'histoire de l'art, parce que je me sers énormément des historiens de l'art, mais c'est de montrer que la comparaison n'est pas possible dans le cadre d'une histoire de l'art qui serait spécifique, interne, si vous voulez, au monde.
Elle doit être mondiale. En fait.
Elle doit être mondiale.
Vous voulez sortir de l'eurocentrisme, voire de
oui. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a aucun moyen de comparer un dessin de Léonard de Vinci et une peinture sur écorce australienne, parce qu'il n'y a pas de critères communs. Les seuls critères communs, précisément, c'est ceux que je propose, qui sont par quels moyens est-ce que l'on a s'est efforcé dans ces images de figurer quelque chose qui est central pour les gens qui l'ont fait. Et je vois pas d'autre façon de procéder que de cette façon comparative, parce que l'anthropologie, par définition, c'est la grande science de la comparaison. Et la comparaison, elle incite, au fond, à mettre tous les éléments que l'on compare sur un pied d'égalité.
On vous demandera demain, Philippe Descola, si derrière la perspective qui est la vôtre n'est pas malgré tout de changer la science, changer l'art, changer la politique. On vous parlera de cette démarche qui est la vôtre. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Michael Simon, réalisation Rafik Zénine, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.